Yo yo yo, émission Musica Radio Galère avec MIDOU, on est back dans les bacs avec cette nouvelle émission. Une émission, attention, qui va vous régaler aujourd'hui parce que c'est un invité de marque qu'on a. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui reconnaissent, California Love, une émission spéciale Tupac aujourd'hui sur l'émission Musica Radio Galère. Ça fait longtemps qu'on voulait faire cette émission spéciale sur Tupac et on attend justement l'anniversaire récent du 30e anniversaire de l'album All Eyes on Me, son album iconique sorti en 1996. Ça fait tout juste 30 ans qu'il est sorti en février 1996 et on arrive avec une émission spéciale. Vous allez vous régaler, c'est que du lourd aujourd'hui. Je vais vous faire découvrir parce qu'en fait je me suis aperçu que beaucoup connaissent un peu en surface cet artiste légendaire qui est Tupac et on va revenir un peu dans les grandes lignes de sa carrière. Vous allez voir, pour ceux qui le connaissent, j'espère que vous pourrez le connaître mieux après cette émission Musica. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que vous allez découvrir une des grandes légendes urbaines de la fin du 20e siècle, à savoir Tupac. On est parti une émission qui va nous régaler sur tous les plans. En vibe, en musique, vous connaissez, on est sur l'émission Musica Radio Galère avec le MIDOU, deux mardis par mois et on est parti, ça va être du très lourd guys aujourd'hui, très très lourd. Une heure, je sais pas si ça va nous suffire, on va essayer de balayer le truc, quoi. On va essayer de faire un truc sympa. On est parti tout de suite sur ce son produit par Dr. Dre, on est en fin 95, début 96, l'album All Eyes On Me vient de sortir, ce son California Love, qui est un son qui a traversé les époques, traverse les genres musicaux, c'est même plus du hip-hop, c'est de la musique moderne. Régalez-vous bien, aujourd'hui, accrochez-vous et faites tourner les cassettes, parce qu'il va falloir enregistrer, il y aura du mainstream, du pas mainstream, enfin vous connaissez le leitmotiv de l'émission Musica. On est parti pour une heure de régalade avec le MIDOU, c'est parti sur Radio Galère, yo yo yo. Tupac, que dire sur Tupac, il y a tellement de choses à dire. On va commencer par un petit rappel autobiographique, sans trop tomber, vous nous connaissez, moi j'ai pas envie de trop parler, c'est la musique qui parle, c'est l'artiste qui parle, mais quand même vous donner quelques repères un peu biographiques sur le personnage. Un Tupac qui est né au début des années 70 à New York, c'est un gars de Harlem à la base. On l'a beaucoup entendu dans les trucs East Coast, West Coast, vous allez comprendre que c'est un peu plus complexe que ça. Non, le gars est bien né à East Harlem, à New York, au début des années 70. Sa maman, Afeni Shakur, c'est une afro-américaine qui était membre des Black Panthers à l'époque, fin 60, début 70, un mouvement revendiquant le droit des afro-américains. Son père aussi est un très grand activiste des Black Panthers, son mentor est un activiste des Black Panthers, donc bref, il est né dans cet environnement-là, on est années 60, c'est Malcolm X, Nation of Islam, Black Panthers, allez voir le film de Spike Lee, Malcolm X par exemple, pour vous donner un peu une idée de comment, du mood de l'époque. Donc il est né dans cet environnement social, politique, Tupac Shakur. D'ailleurs c'est pas son vrai nom Tupac Shakur, son vrai nom, en fait, vous savez, les membres des Black Panthers se redonnaient des noms, parce qu'en fait les noms qu'ils avaient c'était des noms en consonance anglo-saxonne, comme encore beaucoup d'afro-américains aujourd'hui, mais les Black Panthers eux ils ont changé leur nom parce qu'ils considéraient que les noms anglo-saxons en fait étaient le nom de leurs esclaves en effet, parce que c'était les noms qui étaient donnés par les esclaves en fait, c'est les noms aux afro-américains, on leur donnait le nom de leur maître malheureusement à l'époque. Donc beaucoup de personnes des Black Panthers, de Nation of Islam, Malcolm X, ils ont voulu changer de nom. Par exemple Mohamed Ali, c'est pas son vrai nom Mohamed Ali, son vrai nom c'est Cassius Clay, mais en fait il a changé son nom parce que pour lui c'était un moyen de détacher ses chaînes en fait de cet asservissement, et son nom le rappelait sans cesse sa condition, la condition de ses ancêtres d'esclaves. Donc Tupac Shakur à la base c'est un révolutionnaire péruvien à la base, donc Afeni Shakur, sa maman, a changé de nom et a donné ce nom de Tupac Shakur, le nom d'un grand révolutionnaire péruvien, à son fils. Donc voilà, cet artiste, son vrai nom c'est Lezen Paris Crooks à la base, mais voilà, donc c'était un peu le mood de l'époque. On verra qu'il a changé de nom à la fin de sa carrière, mais je ne veux pas trop teaser un peu l'émission, donc on avance tranquillement, piano piano. Né à East Harlem, début des années 70, un environnement social très compliqué, les gangs. Il faut savoir que New York, à la fin des années, dans les années 70, c'est pas le New York d'aujourd'hui. C'est une ville qui est au bord de la faillite. Des coupures d'électricité à tout va. D'ailleurs, vous savez qu'une des conséquences des coupures d'électricité a été le vol massif dans les magasins de hi-fi électroménager, de platine, d'enceintes, etc., qui ensuite sont remontés uptown, direction le Bronx. Et c'est là où notamment l'immigration jamaïcaine a utilisé ce matériel-là pour faire des jam parties dans les terrains de basket, etc. C'est comme ça qu'est né le mouvement hip-hop avec notamment DJ Lil Cool, Herc, à la fin des années 70. Donc ça, c'était pour la parenthèse, mais tout ça pour vous dire que le New York des années 70, c'est vraiment un New York qui donne pas envie. Hein. Il y a pas, vous savez, par exemple, Times Square n'existe pas à l'époque. Hein. C'est, Times Square, ça a été créé par Giuliani au début des années 90. Donc c'est pas l'image de New York qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment le ghetto pur. Donc les crackheads, enfin, c'est vraiment un environnement horrible. Tupac grandit dans cet environnement-là et à son adolescence, sa maman décide elle sent que ça va partir en vrille pour Tupac et donc elle dit on change, on déménage et on se casse à Baltimore. Et donc là, adolescent, lui, il arrive à Baltimore. Donc il y a un peu entre Washington et New York, une ville un peu plus calme. Et là, Tupac a déjà une conscience, qui lit beaucoup de bouquins, qui a une conscience politique avec sa maman, enfin une culture générale très forte. Il s'inscrit, il veut devenir acteur et il s'inscrit à une école d'art dramatique à Baltimore. C'est là notamment qu'il rencontre Jada Pinkett, qui deviendra plus tard la femme de Will Smith, mais qui à la base, voilà, c'est son amour éternel après sa maman, Tupac Shakur, Jada. C'est donc une relation amicale qui se crée à cette époque-là. Donc là, on est 87-88. Un peu avant, 86-87, jusqu'à 88, donc à Baltimore. Il fait des études d'art dramatique et ensuite, sa maman décide de bouger encore une nouvelle fois. Et cette fois, elle bouge à direction San Francisco. Il faut savoir que beaucoup de Black Panthers, à la fin des années 80, ont migré du côté de la Bay Area, du côté de San Francisco. C'est là qu'est né le mouvement Black Panthers, hein, à Oakland notamment, qui regroupe une forte communauté afro-américaine. C'est direction la Bay Area à la fin des années 80 pour Tupac Shakur et sa maman. Et là, sa vie change, en fait, parce qu'il garde toujours en tête de vouloir devenir comédien. Mais là, il est au contact d'un mouvement hip-hop intense à San Francisco. Hein. Et oui, on l'ignore, mais il y a une scène underground à San Francisco qui est monstrueuse. Tout le monde connaît, bien sûr, MC Hammer à la fin des années 80 et ses tubes. Mais il y avait le terreau des Black Panthers qui est né à San Francisco a créé derrière une effervescence musicale incroyable sur San Francisco. Et là, il va commencer à découvrir le rap avec un groupe qui s'appelle Digital Underground, sur lequel il va commencer à danser et à chanter. Le leader de ce groupe s'appelle Shock G. Vous allez voir qu'il va revenir encore dans sa carrière plus tard. Et voilà, donc là, il traîne avec un peu les gangs de Oakland, de San Francisco. Voilà, là, il commence à tremper un peu dans l'illégalité. Et il se forge une culture hip-hop très forte à ce moment-là. Et je vous le dis, intéressez-vous à la scène musicale de San Francisco en termes de rap US, parce que franchement, c'est du très très lourd. Et on ne connaît pas forcément, ça n'a pas été diffusé de manière mainstream, parce que c'est principalement des labels indépendants qui se sont développés à San Francisco. Donc c'est resté une scène très locale mais très très forte. Donc là, avec les Digital Underground, il commence à tourner, il commence à rapper, il rappe sur le premier album de Digital Underground, il est danseur pour le groupe, etc. Il fait des tournées un peu dans la région, en Californie. Il s'imprègne vraiment du son californien de l'époque, qui est un son très funky, très G-Funk, hein. On pense que la G-Funk est née en fait à Los Angeles, alors que pas du tout. La G-Funk est née à la base dans la Bay Area avec des rappeurs comme les Digital Underground, Too Short, etc., E-40, donc c'est un son très funky, des grosses basses, et il s'imprègne de cette couleur musicale déjà dès la fin des années 80. Là, je commence à trop parler, on va laisser place à la musique, mais c'était une introduction un peu longue, désolé, et là, on arrive tout de suite avec le premier album de Tupac, Tupacalypse Now, on est en 91, il est avec le groupe Digital Underground, et il décide de lancer en solo un album incroyable, d'une conscience politique folle, des textes poétiques, de folie, vraiment. Il a 20 ans quand il sort cet album là et c'est un album d'une très très grande maturité. Il commence à avoir son style musical de storytelling qui commence à émerger, et ce premier morceau marquant qui le fait connaître un peu dans tous les États-Unis et même worldwide, hein, je dirais, c'est le morceau Brenda's Got a Baby. On va l'écouter tout de suite et on en dira deux mots juste après. Régalez-vous, c'est Tupac sur Radio Galère, émission Musica MIDOU. C'est parti, la légende Tupac sur Radio Galère avec Brenda Got a Baby, et c'est un album très très lourd. C'est l'album Tupacalypse Now qui est sorti en 1991. Et voilà, on va découvrir quelques morceaux aujourd'hui. C'est du très, très, très lourd. On est parti. Tupac, Brenda Got a Baby. Yeah.
spell her name. That's not our problem, that's up to Brenda's family. Well, let me show you how it affects our whole community. Now Brenda really never knew her moms, and her dad was a junkie putting death into his arms. It's sad, cause I bet Brenda doesn't even know. Just cause you're in the ghetto doesn't mean you can't grow. But oh, that's a book, my own revelation. Do whatever it takes to resist the temptation. Brenda got herself a boyfriend. Her boyfriend was a cousin, now let's watch the joy. And she tried to hide her pregnancy from a family who really didn't care to see or give a damn if she went out and had a church of kids. As long as when the check came, they got first dibs. Now Brenda's belly's getting bigger, but no one seems to notice any change in her figure. She's 12 years older, she's having a baby, in love with a molester who's sexing her crazy. And yet, and also thinks that'll be with her forever, and dreams of a world with the two of them are together. Whatever, he left her and she had the baby solo. She had it on the bathroom floor and didn't know, so she didn't know what to throw away and what to keep. She wrapped the baby up and threw him in a trash heap. I guess she thought she'd get away, wouldn't hear the cries. She didn't realize how much the little baby had her eyes. Now the baby's in a trash heap bawling. Mama can't help her, but it hurts to hear her calling. Brenda wants to run away. Mama say you're making me lose pay, and social work is here every day. Now Brenda's gotta make her own way. Can't go to a family, they won't let her stay. No money, no babysitter, she couldn't keep a job. She tried to sell crack, but ended up getting robbed. So now what's next? It ain't nothing left to sell. So she sees sex as a way of leaving hell. It's paying the rent, so she really can't complain. Prostitute fam, swing. And Brenda's her name, she's got a baby.
Yo yo yo, et Musica émission, Musica sur Radio Galère avec le M-I-D-O-U, Don't You Know She's Got a Baby, Brenda Got a Baby. C'est vraiment un morceau marquant de début de carrière de Tupac. C'est un très 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 beau morceau. C'est un narratif social, hein, donc il raconte l'histoire. En fait, c'est inspiré de faits réels, hein, c'est vraiment dans le storytelling. C'est une jeune adolescente qui tombe enceinte, qui cache sa grossesse et qui accouche seule et abandonne son bébé, donc elle... Tupac qui dénonce la pauvreté, la négligence institutionnelle, le cycle de la misère urbaine. Et là, on comprend en fait le personnage de Tupac. Tupac, c'est un personnage qui a toujours été collé à la rue. Il n'a jamais quitté la rue. Il raconte ce qu'il vit, il raconte ce qu'il voit. Et c'est un gars qui... c'est 100% authentique, sa musique. Et c'est pour ça qu'il touche les gens, c'est pour ça qu'il a touché les gens. Et c'est pour ça qu'encore jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore fait mieux dans le hip-hop. C'est qu'on n'a pas... la street crédibilité, elle transpire, en fait. Il ne se la raconte pas, il raconte ce qu'il voit. Et c'est fort, quoi. Ses paroles sont fortes, il y a des messages... Nous, quand on était dans les années 90, qu'on écoutait Tupac, c'était comme nos livres, Tupac. Et même pour les jeunes Américains de cette époque-là, qui étaient dans les ghettos, dans les quartiers, Tupac, c'était leur espoir, leur lumière. Parce que c'était quelqu'un qui était posé et réfléchi et qui leur racontait des choses qu'ils voyaient eux tous les jours, mais avec une forme poétique. Et c'est là que Tupac est très fort, et c'est pour ça que Tupac reste une légende du hip-hop. Et que voilà, avec ce premier album, Tupacalypse Now, que je vous invite à aller écouter, il y a plein de bons morceaux sur cet album-là. Qu'est-ce que je pourrais vous recommander sur cet album? Franchement, c'est comme toujours sur les albums de Tupac, c'est un peu compliqué, il n'y a jamais rien à jeter. Mais on pourrait dire c'est le premier album, ouais, machin et tout. Non, Digital Underground qui a la prod, il y a vraiment Violence, Soul Jazz Story, Trapped, enfin c'est que des Da Lunatic, Enfin, vous allez écouter ça, franchement, vous allez vous dire, non, mais en fait, déjà, Dunn, ça n'a pas pris une ride. Et vous allez voir à quel point, en fait, Tupac influence les autres, quoi, et à quel point il a influencé les autres. Donc, suite à ce premier album en 91, Tupac commence à avoir une certaine notoriété dans le rap game, à San Francisco, bien sûr, à Oakland, mais dans toute la Californie et aux États-Unis, ça commence à devenir un phénomène. Mais il commence à avoir beaucoup de critiques aussi, parce que Tupac, c'est pas le genre de mec à être pour l'establishment américain, white, etc. Lui, il est là pour dénoncer les choses, pour dénoncer principalement la condition des Afro-Américains à l'époque. Donc, il a pas sa langue dans sa poche. Il a un discours très politique, très social. On le voit dans cette chanson-là, dans son album Tupacalypse Now. Et il commence à s'attirer un peu les foudres des médias mainstream aux États-Unis, de certains politiques. Il commence à dire que ouais, c'est pas ce gars-là a une mauvaise influence sur la jeunesse, etc. Il commence à mal parler sur lui. Et en plus de ça, là, il sort un vous savez qu'il a toujours voulu être comédien. Et là, il sort un film, Juice, qui est un film, honnêtement, sorti en 91. C'est un des meilleurs films pour moi qui est sur la vie de quartier. Bon, on est dans une époque où il y a eu beaucoup de films après, hein, en 91-92, il y a eu Les Frères Hughes avec Menace to Society, qui est un film très lourd, West Coast, très difficile. Il y a eu, il y a eu aussi le film de Singleton, Boys in the Hood. Qui, voilà. Mais ce film Juice, pour moi, il est encore plus fort que Menace to Society et Boys in the Hood. Boys in the Hood et Menace to Society, on est plus sur la West Coast, sur une autre vibe encore. Juice, c'est le quartier des villes de l'Est, du Nord des États-Unis, donc là, New York, par exemple. Donc, c'est un environnement très urbain, avec des blocs d'immeubles, des cités, etc. Un environnement très proche, finalement, de ce qu'on a pu connaître et ce qu'on peut connaître, nous, en France, avec les cités HLM. Mais voilà, on est dans cet environnement-là, et franchement, tout est juste dans ce film. Un film qui, honnêtement, Dickerson, allez voir, hein, Juice Dickerson, 1991-92. Et c'est un film qui décrit la vie de quartier, et Tupac, qui joue son premier grand rôle, il est exceptionnel dans ce film-là. Il y a aussi Omar Epps et d'autres grands acteurs qui ont de belles carrières derrière, Samuel L. Jackson. Mais c'est un des plus beaux films pour moi sur la vie de quartier. Donc, il démarre sa carrière d'acteur comme ça avec ce film Juice en 1991-92, Tupac. Donc, on est dans l'environnement où il sort Tupacalypse Now, il attire les critiques parce qu'il dit la vérité. Et il y a ce film très dur aussi qui sort Juice. Donc, voilà, il est très connoté par les médias mainstream, par le white establishment américain, comme étant, voilà, typiquement un gars qui est pas dans les clous, quoi. C'est pas le genre de black d'afro-américain qui va plutôt être de notre côté. Donc, ça commence à forger aussi un peu le caractère de Tupac, mais c'est lié à son histoire aussi, hein. C'est un gars des Black Panthers, de Nation of Islam. Il a grandi dans cet environnement-là, dans cet environnement de revendication de la cause afro-américaine, quoi. Donc on pouvait pas attendre autre chose de Tupac à ce moment-là. Et donc je vous invite vraiment à aller voir ce film encore une fois, Juice. Et donc dans cet environnement-là, il commence à sortir des sons, tourner en concert, etc. L'album a un grand succès. Il enchaîne sur son deuxième album. Là, vraiment, j'essaie de faire des raccourcis parce qu'on n'a pas le time, malheureusement, d'aller plus loin. Mais là, il sort son deuxième album, qui est un très, très bel album, mais qui est avec une teneur beaucoup plus hardcore, hein, qui s'explique par le fait que... Voilà, il commence à... Il dit la vérité et ça plaît pas à beaucoup de monde. Donc sur cet album-là, il décide d'être un peu en mode... à se mettre un peu en mode rebelle et de démarrer ce qu'on va appeler pour lui, je dirais, la thug life, hein, la vie de voyou. Donc, à commencer à mettre un bandana sur la tête, à être un peu irrévérencieux. Dès qu'il croise des médias dans la rue, il les insulte. Il a quelques petites embrouilles aussi avec les flics, hein. Il est soupçonné d'avoir tiré sur des flics. Enfin, bref, il commence à goûter un peu à cette vie-là parce que, en fait, on le tire vers ça. Et plus on lui dit, en fait, qu'il est une mauvaise inspiration pour les jeunes, plus, en fait, lui, il se sent un peu touché et il va justement rentrer de plus en plus dans ce discours radical, quoi, hein. Et donc, ce deuxième album sort, donc Strictly for My Niggas. C'était un très très bon album qui sort en 93. Il n'y a que des bons morceaux, Keep Your Head Up. On retrouve toujours, hein, la Chuck G, Digital Underground derrière, mais il y a aussi des featuring de fou avec Ice Cube, Ice-T. Il y a même Notorious B.I.G. sur cet album, EVD aussi, hein, la troupe de Bad Boy qui à l'époque ils n'étaient pas en froid, donc ils posent sur cet album. Franchement, c'est un très 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 bon album. Strictly for My Niggas est sorti en 93. Moi, j'ai décidé de vous passer un peu le son léger de cet album parce que l'album est plutôt hardcore, hein. Il y a Keep Your Head Up, etc. etc. Voilà, c'est quand même des sons très très lourds. Moi, je décide de vous passer un morceau que j'aime beaucoup avec Digital Underground qui s'appelle I Get Around. Régalez-vous, on est sur Radio Galère. C'est l'album Strictly For My Niggas sorti en 1993. I Get Around, tout de suite, Tupac avec les Digital Underground. Régalez-vous, c'est comme d'habitude, c'est du très très lourd. Oh, yeah. Émission musique Radio Galère, M.I.D.O. Yo, yo, yo. Still clown when the underground when we come around. Stronger than ever. Back to get wrecked. All respect to those who break their neck to keep their hopes in check. Cause though they sweat a brother majorly. And I don't know why your girl keeps paging me. To tell me that she needs me. Cries when she leaves me. And every time she sees me, she squeeze me. Lady, take it easy. Hate to sound sleazy, but tease me. I don't want it if it's that easy. Hey yo, bust it. Baby, got a problem saying bye-bye. Just another hazard of a fly guy. Your ass wide don't matter. My pockets got fatter. Now everybody's looking for the ladder. And ain't no need in being greedy. If you wanna see me, Donna, keep a number, baby, when you need me. And I'll be there in a jiffy. Don't be picky, just be happy with this quickie. When will you learn? You can't time it down, baby, dog. Check it out. I get around. What you mean you don't know? Check it, go. I get around. The underground just don't stop for hoes. I get around. Still down with the underground. Clowns around, around they go. I get around. Yeah. Ayo, shot. Let them hoes know.
Now you can tell from my everyday fits, I ain't rich, so cease and desist with them tricks. I'm just another black man caught up in the mix, trying to make a dollar out of 15 cents. Just cause I'm a freak don't mean that we can hit the sheets. Maybe I can see that you don't recognize me. I'm Shock G, the one who put the satin on your panties. Never knew a hooker that could share me. I guess.
What's up, love? How you doing? Right. Well, I've been hanging, singing, trying to do my thing. Oh, you heard that I was banging your home girl you went to school with. That's cool, but did she tell you about her sister and your cousin? Thought I wasn't. See, weekends was made for Michelob, but it's a Monday, my day, so just let me hit it, yo, and don't mistake my statement for a clown. We can keep it on the down low, long as you know that I get around.
Round and round, round they go. Tupac in the town, don't stop for hoes. I get around. Round and round, and round they go.
Fingertips on the hips as I dip. Gotta get a tight grip, don't slip. Loose lips ain't ships, it's a trip. I love the way she licks her lips. See me jocking, put a little twist in her hips. Cause I'm watching. Conversations on the phone to the break of dawn. Now we all alone while the lights on. Turn them off, time to set it off. Get you wet and soft, something's on your mind. Let it off. You don't know me, you just met me. You won't let me, well if I couldn't have it, why you sweat me? It's a lot of real G's doing time. Cause the groupie bit the truth and told a lie. You picked the wrong guy, baby. If you're too fly, you need to hit the dough. Search for a new guy. Cause I only got one night in town. Break out a beat clown. Baby doll, are you down? I get around.
Round and round, round and
yo yo yo, émission musicale Radio Galère, Strictly For My Niggas Guys, M-I-D-O-U avec le légendaire Tupac sur les ondes de Radio Galère, Digital Underground et Shock G également sur ce morceau. C'est du très très lourd, c'est de la West Coast, on est dans la Bay Area, direction Oakland guys. Très très lourd album, Strictly For My Niggas. Je vous conseille d'aller redécouvrir encore cet album, deuxième album de Tupac. Franchement, il nous régale sur cet album. Beaucoup plus hardcore, beaucoup plus thug life. On commence à voir un peu là, le bandana, le côté un peu mauvais garçon. Hein, alors Tupacalypse Now était beaucoup plus, même s'il revendique quand même pas mal de choses, mais plus posé, gars, un peu voilà, très social, très narratif, storytelling. Là, il rentre dans le tas. Il dit ah, vous me critiquez, je dis la vérité. Vous voulez que je sois un thug? Je vais être un thug, il n'y a pas de souci, vous allez voir ce que c'est. Et là, il commence vraiment à rentrer dans une vie de voyou. Hein. Là, 92-93, il fréquente des gars. Là, son centre de gravité à cette époque-là, c'est la Bay Area, c'est Oakland. Il traîne avec des gars, voilà. Enfin, honnêtement, je ne vous fais pas le dessin. Hein. Il raconte ce qu'il vit. Hein. À cette époque-là, il n'y a pas de... La street credibility dans les années 90 dans le hip-hop américain, c'était fondamental. Si tu vivais pas ce que tu racontais, t'avais aucune crédibilité. Tout se savait, on n'avait pas à l'époque les réseaux sociaux, mais les gars se connaissaient entre eux, tout le monde se connaissait, quoi. Et le centre de gravité, donc, qui est Oakland, et pas Los Angeles, hein. Attention, Tupac, son centre de gravité musical, la première partie de sa carrière, c'est Oakland, c'est Too Short, E-40, Dizzy Town Underground, MC Hammer, c'est ça son environnement musical de l'époque de San Francisco. Et donc du coup, bah voilà, ce deuxième album là, il explose, hein, en termes de voilà, il tue le game. Clairement, tout le monde comprend que Tupac c'est un génie musical, son flow. C'est, en fait, sa voix est un instrument, ses paroles, son flow, tout ce qu'il raconte, tout est lourd, c'est de la poésie. Je vous dis encore, les jeunes américains disent que c'était des bouquins, c'était leur bouquin, les chansons de Tupac, et ils ont raison parce que franchement c'était profond. D'un autre côté, il continue un peu sa carrière cinématographique, hein, il va tourner dans des films comme Poetic Justice, que très beau film de Singleton, celui qui avait fait Boys in the Hood, Poetic Justice avec Janet Jackson, franchement très belle histoire, dans le ghetto toujours, plutôt East Coast, franchement New York, le décor est bon, si vous voulez comprendre un peu la vie de New York dans les début des années 90, dans les ghettos afro, allez voir Poetic Justice, très très beau film. Pareil, Above the Rime, autour de l'environnement plus basket, sportif, mais encore un très grand rôle pour Tupac qui se régale. Donc là, trois bons films en fait, hein, Juice, Poetic Justice, Above the Rime. Franchement, on se dit, le musicien est extraordinaire, l'acteur est aussi bon. On a face à nous quelqu'un qui est très très fort, quoi, et qui va rentrer dans la légende. Et oui, en fait, il va rentrer dans la légende. Et voilà, mais moi je pense que quelque chose au fond de moi disait quand même que son premier amour, ça reste quand même le cinéma. Elle jouait la comédie, mais la musique, c'est plus un moyen pour lui de dire ce qu'il pense, en fait. C'est un moyen pour lui de s'exprimer. Et donc, voilà, je pense que c'est pour ça que les deux, en fait, dans le personnage, ça match très, très bien. On est en 94, encore une fois, je vais super méga vite. Donc là, il commence à vraiment, avec cet album Strictly for My Niggas, être très écouté à New York. Et à New York, en 93, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'essor du label Bad Boy Records américain, hein, avec cette OPA de Sean Jones, PDD, sur le label Uptown. Il a ensuite créé Bad Boy Records. Et là, il signe des acteurs, des gros chanteurs de l'époque en 93, Craig Mack, pour ceux qui connaissent, qui a eu un énormément de succès au début des années 90, et bien sûr, The Notorious B.I.G., qui signe, il va le dégoter dans les ghettos de Brooklyn, Bed Stuy, il va aller le récupérer là-bas, il va dire, ouais, tiens, tu veux signer chez moi, Bad Boy Records, je viens de créer un nouveau label, et bam, en 93, donc du coup, il y a le rap new-yorkais qui monte aussi en puissance avec ce label-là, et Tupac, il commence à être très écouté à New York, en fait, hein, même si son rap, enfin, lui, il est originaire de New York à la base, il est né à Harlem, Tupac. Sauf que, bon, bah, son son, c'est un son West Coast, c'est un son Bay Area, c'est un son Oakland, très G-Funk, très funky, très R&B dans les refrains, etc. Et donc, du coup, bah, en fait, en 94, il se rend à un studio, bon, on sait pas, on lui dit d'aller dans un studio pour payer, en fait, un gars, etc. C'est une histoire un peu louche, il trouve ça un peu bizarre, il y va, et là, il se fait braquer à Manhattan, et on lui vole ses bijoux, et on lui tire 5 balles. On lui tire 5 balles et dans les mêmes locaux, en fait, il croise, au même moment, en fait, il croise juste après la fusillade, dont il sort fort heureusement indemne. Bon, il va être en fauteuil roulant pendant quelques temps, mais il sort un peu indemne. Et il croise dans le même bâtiment, en fait, Puff Daddy, à l'époque, et The Notorious B.I.G., qui, selon la légende, le regarde et, en fait, n'ont pas véritablement de signe de compassion envers lui. Lui, il est avec l'équipe, à l'époque, son équipe de la West Coast, hein, son équipe de la Bay Area, donc Shock G, compagnie. Et, en fait, lui, ce qu'il pense, c'est que c'est un coup monté des gars de Bad Boy Records, qui ont voulu le tuer, hein, littéralement, parce que lui, son rap commençait à faire concurrence un peu avec celui de Puff Daddy, de Notorious B.I.G. à l'époque. Donc voilà un peu comment est née un peu la rivalité entre les deux. Et donc là, on est courant 94. Et en 94, il faut savoir que Tupac il a eu plein de démêlés judiciaires. On l'a accusé d'avoir tiré sur des flics sans les tuer, etc. Bref. Mais il y a un truc sérieux, c'est qu'il est accusé par une femme d'agression sexuelle, d'abus sexuel, en fait, hein, où il l'aurait fait monter dans un hôtel, et puis etc. Il serait passé plein de choses Lui, il dit que c'est faux. Donc voilà, il passe en jugement juste après la fusillade. C'est quelques jours après, donc il va au tribunal. Vous allez voir ça sur Internet. Il va au tribunal avec un fauteuil roulant et il est condamné au tribunal en fin 94, début 95. Là, je ne sais plus la date exacte, mais il est condamné au tribunal à 4 ans et demi de prison dans à Rikers Island, dans une tribu, dans une prison au nord de New York. Et là, franchement, c'est le coup de tonnerre, quoi. Celui qui est en plein apogée de sa carrière, paf, il se prend 4 ans de prison ferme pour des accusations d'une personne, on ne sait pas si c'est vrai, pas vrai, bon, voilà. Mais en tout cas, franchement, il le vit très mal. Lui, il clame son innocence, donc il va encore plus revendiquer cette figure de victime, en fait, du système, parce qu'en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que le système, comme de par ses albums, de par sa musique, il dérange l'establishment américain. Lui, ce qu'il pense, c'est qu'en fait, c'est un coup monté et qu'en fait, on cherche à le mettre en prison pour taire sa parole, en fait. Tout simplement, il est dans cette image de l'afro-américain, Black Panthers, qu'on enferme pour le faire taire, en fait. Et donc, en 94, fin 94, début 95, donc début 95, en février, il rentre en prison. Avant ça, en fin 94, il avait enregistré un album qui sortira juste au moment où il entre en prison, en fait. Lui, il a enregistré fin 94, donc en plein démêlé judiciaire. Il sort cet album en mars 95. En mars 95, il sort un album qui s'appelle Me Against the World. Waouh, cet album, pour moi, c'est mon album préféré de Tupac. Pourquoi ? Parce que c'est son album le plus introspectif, où il parle vraiment de lui. Il commence à aborder des thèmes comme la spiritualité, des chansons très très fortes comme Dear Mama, qui est un hommage à sa maman incroyable, une chanson iconique, des chansons comme So Many Tears, Me Against the World. Franchement, c'est du très très lourd. D'ailleurs, là, je vais vous passer So Many Tears, qui est pour moi un très très beau morceau. Mais il n'y a rien acheté sur cet album. C'est un album magnifique, Me Against the World, qui arrive à un moment où Tupac est un peu au milieu de plein de démêlés judiciaires. Il vient de se faire avoir une tentative de meurtre qui soupçonne Puff Daddy et Bad Boy Records. Et donc, en fait, ça donne à cet album-là une texture à la fois un peu revancharde, spirituelle, très, très forte. Je vous l'invite à l'écouter, cet album, Me Against the World de Tupac, qui sort en février 1995. C'est un album majestueux. Et là, on va écouter tout de suite. C'est compliqué de choisir quel morceau. Tout est bon dans cet album. Hein. Mais So Many Tears, je reconnais que c'est quand même un morceau qui est très fort. Allez, on va partir là-dessus parce que compliqué de choisir. Sinon, il y a d'autres bons morceaux. Me Against the World est très bon. If I Die Tonight, Dear Mama, It Ain't Easy. Enfin, il y a vraiment que du lourd sur cet album. Je vous invite vraiment à l'écouter, hein, cet album, Me Against the World. Ça s'écoute d'une traite, sans passer les morceaux. C'est comme un bouquin. C'est un très très bel album qui est sorti alors qu'il vient juste de rentrer en prison en février 1995. Et on est parti tout de suite avec So Many Tears. Très très beau morceau de cet album.
Back in elementary, I thrived on misery. Left me alone, I grew up amongst a dying breed. Inside my mind, couldn't find a place to rest until I got that thug life tatted on my chest. Tell me, can you feel me? I'm not living in the past, you wanna last. Be the first to blast, remember Cato. No longer witness, see deceits, call on the sirens. Seen them murdered in the streets, now rest in peace. Is there heaven for a G? Remember me. So many homies in the cemetery shed so many tears. I suffered through the years and shed so many tears. Lord, I lost so many peers and shed so many tears. Now that I'm struggling in this business by any means, label me greedy, getting green, but seldom seen. And the world, cause I'm cursed, I'm having visions of leaving here in the hearse. God, can you feel me? Take me away from all the pressure and all the pain. Show me some happiness again. I'm going blind, I spend my time in the cell. Ain't living well, I know my destiny is hell. But did I fail? My life is in denial, and when I die, baptized in eternal fire, shed so many tears. Lord, I suffered through the years and shed so many tears. Lord, I lost so many peers and shed so many tears. Now I'm lost and I'm weary, so many tears. I'm suicidal, so don't stand near me. My every move is a calculated step to bring me closer to embracing early death. Now there's nothing left. There was no mercy on the streets. I couldn't
rest. I'm barely standing, about to go to pieces, screaming peace. And though my soul was deleted, I couldn't see it. I had my mind full of demons trying to break free. They planted seeds and they hatched, sparking the flame inside my brain like a match. Such a dirty game. No memories, just the misery. Painting a picture of my enemies killing me in my sleep. Will I survive till the morning to see the sun? Please, Lord, forgive me for my sins, cause here I come. Lord,
I suffered through the years and shed so many tears.
God,
I lost so many peers.
And Lord knows I tried. Been a witness to homicides and drive-bys, taking lives, little kids die. Wonder why as I walk by, broken-hearted as I glance at the chalk line, getting high. This ain't the life for me, I wanna change. But ain't no future right for me, I'm stuck in the game. I'm trapped inside a maze. See this Tangeray influence me to getting crazy, disillusioned lately. I've been really wanting babies, so I can see a part of me that wasn't always shady. Don't trust my lady, cause she's a product of this poison. I'm hearing noises, think she's shitting on my boys. Can't take no more, I'm falling to the floor, begging for the Lord to let me into heaven's door. Shed so many tears. Lord,
I've lost so many years and shed so many tears.
Morceau très très lourd, émission musicale Radio Galère avec le M-I-D-O-U et ce morceau, cette harmonica, So Many Cheers, Tupac, sur cet album qui est mon album préféré et l'album de beaucoup de personnes, même lui, je crois que c'est celui qu'il préfère. Me Against the World, enregistré très rapidement, fin 94, sorti alors qu'il rentre en prison, et c'est le premier album de l'histoire de la musique à devenir numéro 1 alors que son artiste est en prison. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera pas de sitôt. C'est une légende qui s'inscrit pour Tupac avec cet album-là. Il vient, d'être victime d'une tentative d'homicide à New York, à Manhattan, alors qu'il se rendait dans un studio et il soupçonne les gars de Bad Boy Records, de Puff Daddy, d'être derrière tout ça. Il y a une tension qui commence à monter entre la East Coast et la West Coast, parce que pendant qu'il est en prison, il y a plusieurs remises de titres, notamment parce que là, à cette époque-là, West Coast, attention, il y a Suge Knight, il y a Death Row, il y a l'album de Snoop Dogg qui est sorti, qui est un carton, il y a l'album de Dr. Dre de Chronic en 92 qui est un carton, West Coast. Death Row, c'est quelque chose de sérieux à l'époque. Mais jusqu'à cet événement-là, cette tentative d'homicide, la relation East Coast-West Coast n'était pas... Voilà, enfin, Notorious Big a même posé sur des sondes de Tupac. Les deux se connaissaient. Suge Knight connaissait Puff Daddy. Ils allaient en boîte ensemble. Enfin, il n'y avait pas d'animosité outre... vous voyez ce que je veux dire ? C'était pas un truc très, très, très fort. Là, la tentative d'homicide, ça a changé un peu le game. Et l'année 95, c'est l'année principale des rivalités East-West, notamment les Soul Train. Il y a même cette intervention légendaire de Suge Knight, le producteur de Death Row, sur la tribune de Soul Train, où il dit en fait, écoutez, si vous cherchez un producteur qui n'est pas dans tous vos clips, dans toutes vos musiques, à faire des bruits bizarres, à danser dans vos trucs et machin, venez chez Death Row. Il faisait un peu allusion à Puff Daddy, qui était en effet, sur tous les clips de Notorious B.I.G., vous avez un Puff Daddy qui danse, ou sur les morceaux de Notorious B.I.G., vous avez un bruit de Puff Daddy bizarre derrière, etc. Il est omniprésent, voilà, et lui, en fait, il essaie de se moquer un peu de lui, et ça crée un peu la rivalité, ça exacerbe la rivalité entre pas vraiment East Coast, West Coast, je dirais plus Death Row, Bad Boy Records. C'est plus ça la rivalité, en fait, entre les deux, hein, parce que Tupac, même avant de rentrer en prison, il traîne avec les gars de Harlem. Il y a même une vidéo où il se balade dans Harlem. Il n'y a personne qui va l'emmerder. À Harlem, tout le monde écoute du Tupac. Il est pote avec Treach, qui est un des membres du groupe new-yorkais Naughty by Nature. Enfin voilà, il n'y a pas d'animosité entre les New-Yorkais et les Californiens. Mais c'est plus au niveau des labels que c'est chaud. On avance, donc voilà cet album qui sort, qui est un carton alors que Tupac est en prison. Et là, franchement, il y a Suge Knight qui débarque de nulle part, qui sort sur les... Death Row devient très riche, hein, avec ses albums notamment de The Chronic, de Dog Pound aussi, et de Snoop Dogg, très riche. Et en fait, Tupac fait appel de cette décision de justice. Et en fait, il obtient un truc où il doit payer une caution d'1,4 million et il sort. Et là, t'as Suge Knight qui débarque et qui dit « Je te paye ta caution d'1,4 million ». Suge Knight se rend en prison à New York et il signe un contrat avec Tupac. Il lui dit « Ok, je te paye ta caution, par contre, tu m'enregistres 3 albums ». Tupac, il dit « Ok, il signe ». Et là, on est en novembre de 95. C'est... faut vivre le truc à l'époque, en fait, pour comprendre ce qui se passe. On est en novembre 95 et Tupac sort de prison, il signe chez Death Row, et là, il rentre tout de suite en studio. Boum ! Octobre, tac, il est en studio. Et là, il sort plus du studio et il pond un double album incroyable. All Eyes on Me. Faut savoir que Death Row à l'époque c'était facile parce que les instrus, les beats, tout était là. Il y avait Daz Dillinger à l'époque qui était un des meilleurs. Tupac fait rentrer ses gars, il était très fidèle avec ses gars de la Bay Area de San Francisco, donc il fait venir ses gars de Digital Underground notamment, Shock G. Il y a un producteur qui monte en puissance qui s'appelle Johnny G. Johnny G, retenez bien ce nom, c'est un Mexicain. Tous les gros sons, les gros albums ont été faits de Tupac ont été faits avec lui. Et là, il se lie d'amitié, notamment avec Tyson avant son séjour en prison, mais là ça prend de l'ampleur. Et là, il sort un album, All Eyes on Me. On est en novembre 96. Novembre 95, pardon. C'est incroyable, cet album-là. C'est une détonation. C'est incroyable dans le grab game, dans le hip-hop game. C'est une révolution musicale. Il va définir les codes de la musique sur les 20-30 prochaines années du hip-hop, jusqu'encore aujourd'hui, en fait, ça reste encore iconique, cet album-là. Et juste pour vous donner un peu de flavor about the album, écoutez juste le début, l'introduction, c'est juste dingue. I'm a straight rider, you don't wanna fuck with me. Got the police watching at me, but they can't do nothing to me. Allez, on se le remet, écoutez, regarde. Deny, I'm a self rider. Quand on écoute ça, on est en fin 95. Il lance un Ready to Rumble qui est repris derrière par Mike Tyson. Il y a Mike Tyson qui reprend derrière cette chanson-là. Il rentre sur le ring. Mike Tyson, qui était une légende à l'époque, hein, il accumulait les titres. Il rentrait sur le ring avec ce morceau-là, Mike Tyson. C'était incroyable, c'était dingue ce morceau Ambition as a Rider qui introduit l'album All Eyes on Me, qui est un album magnifique. C'est un no skip, tout est bon dans cet album. Et allez, on va se passer un petit son très très là, on est vraiment dans le son G-Funk hein, de l'époque, et on se fait plaisir avec un morceau avec Nate Dogg, c'est All About You. Allez, on est parti, All About You, sur cet album All Eyes on Me, qui est un album génialissime, dont on fête l'anniversaire là en février, les 30 ans de cet album All Eyes on Me. Et là c'est parti avec All About You, régalez-vous, on est sur Radio Galère. Come on, M-I-D-O-U, yo yo yo, émission Musica avec Tupac, All Eyes on Me.
Wanna laugh at how I got my ass caught up with this bad bitch? Thinking I had her, but she had me in the long run. It's just my luck, I'm stuck with fucking with the wrong one. Wise decisions based on lies we live in. Scandalous times, this game's like my religion. You could be rolling with the thug, instead you with this weak scrub looking for some love in every club. I see you staring like you want it. Well, baby, if you got it, better front it. Let the liquor help you get a bonus. I'm still tipsy from last night, bumping the walls as a pose. Addicted to the fast life. I try to holler, but you tell me you take it. Saying you ain't impressed. Guess it's true what they telling me. Rush out of jail like hell for a black celebrity. So that's the reason why I call. And maybe you win it. Fantasies of a sweat and can I hit it? Addicted to the things you do. It's still true what I'm saying, boo. Is this is all about you.
Every other city we go. Every other video.
It's all about you.
No matter where I go. I still the same hole. Every other city we go. Every other video.
Witness me holler at a hoochie, see how quick the game takes. I cannot tell her I'm a player, and I don't even get a creep though. Weed smokes in the air, everywhere I go. It's all about the groupie hoes, waiting for niggas at the end of every show. I just seen you with my friends, video. I never put a beat for my friends, so here we go. Find a new leader and beat the drama that I'm going through. It's all about you.
About you or your bitch bitch ass crew. Every other city we go, in every video explain to a nigga why I see the same shitty hoe. You think it's all about you, but boo, I get down like Drew and my nasty new niggas.
You couldn't hold me back, it'd take a fatter track, a lyrical attack perhaps. It was a visual block when I started to snap. Slow your load, I'm swimming straight in control. Flows and fold, my whole load strong, hole is set. I told drama, goal and next. Go digging, cold digging a go road. I slide in easily, try a greasily. Sluts know the cut, I came to fuck, try squeezing me. Running up in it, just like who's dinner when I've been here at the most. I fuck a bitch from the west coast, but that's
my thing. Every other city we go, every other video. No matter where I go, I see the same hoes. Every other city we go, every other video.
Très 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 lourd ce morceau, oh, All About You, Tupac sur cet album All Eyes On Me. C'est un morceau, voilà, c'est un morceau qui représente un peu l'album. C'est un album très thug life, très vie de voyous de West Coast. Il raconte ce qu'il voit, les problèmes sociaux, les guerres de gangs, la loyauté entre les uns et les autres. Franchement, Tupac, c'est une masterclass hein, cet album, clairement, hein, c'est une masterclass. Double CD, hein, double album, et tout est bon dans cet album. Tout est bon, il est entouré des meilleurs producteurs et en 3 semaines, il sort cet album à la sortie de prison. C'est une déflagration dans le monde du hip-hop et dans le monde musical. Hein. Il atteint le top des charts pendant des mois et des mois. Enfin, cet album-là, s'il faut avoir un album de Tupac, même si mon préféré c'est Me Against the World, je reconnais que cet album-là, All Eyes on Me, sorti fin 95, est quand même un album à avoir. Enfin, je veux dire, voilà, si vous voulez vous intéresser un peu au hip-hop, ces 30 ans là, c'est un album marquant. Enfin, il y a tellement de morceaux sur cet album, je pourrais même pas, enfin, qu'est-ce que je peux vous recommander comme morceau? Le Bar et Tout, bien sûr, bien hein. Two of America's Most Wanted, produit par Dre avec Snoop Dogg. Moi j'aime bien Only God Can Judge Me, ça c'est un très beau morceau et c'est sa devise à Tupac, hein. Il y a que Dieu qui peut me juger. Only God Can Judge Me. Franchement, allez écouter, c'est très très fort. Bon, California Love, bien sûr. I Ain't Made Atcha aussi, c'est un très très beau morceau. Il y a que du très très lourd. Et donc en fait là, cet album cartonne tellement qu'il y a la rivalité entre Bad Boy Records East West commence à prendre de l'ampleur, exacerbée par la presse, etc. Et là, il sort un diss track, donc un morceau un peu clash. En courant premier semestre 96, là, Tupac, ce morceau s'appelle, produit par Johnny J, c'est un morceau qui s'appelle Hit 'Em Up, et voilà, il dénonce, il insulte, enfin, il se moque de Notorious Big, de Bad Boy Records, Puff Daddy. Là, ça commence sérieusement à chauffer entre New York et la scène new-yorkaise et la scène californienne, spécialement Los Angeles. Il faut savoir que Tupac, il est très proche des gangs, hein, et notamment des gangs c'est les Crips ? Ouais, c'est les Bloods, pardon. C'est les Bloods. Bloods, Suge Knight, hein, le patron iconique de Death Row est un Bloods, donc il est très proche des Bloods, et donc du coup, il traîne dans ces gangs, et là, ça commence sérieusement à chauffer là entre les deux. Il y a des menaces, il y a des bagarres dans les boîtes de nuit, etc. Ça commence vraiment à être très très chaud, et ce morceau là Hit 'Em Up qui sort ne va pas refroidir les choses, et il arrive ce que on craignait tous, l'assassinat de Tupac. On pourrait en faire une émission en fait, hein, de cet assassinat, tellement il y a de choses à dire. Malheureusement, en septembre 1993, juste après un match de Mike Tyson à Las Vegas. En fait, pour vous retracer brièvement ce qui s'est passé, il y a Suge Knight, Tupac, ils vont voir un combat de Mike Tyson qui remporte en septembre 1996. À la sortie en fait du stade, juste à l'entrée, là, il y a en fait un gars qui s'appelle Orlando Anderson, qui est reconnu par Tupac et son équipe comme étant un des gars qui a agressé un gars il y a quelques jours de Death Row. La légende veut qu'en fait on lui a arraché un gars de Death Row, sa chaîne Death Row, pour la donner à P. Diddy. Bon bref, on ne sait pas ce qui s'est passé encore. Il n'y a pas d'enquête, ça va peut-être venir un jour. Bref, il y a une bagarre qui éclate entre Tupac et Orlando Robinson dans le hall du stade de Mike Tyson. Là, ça commence vraiment à chauffer. Suite à ça, il y a Suge Knight, la bagarre est séparée. Suge Knight et Tupac partent. Et là, ils se baladent dans Las Vegas, pardon. Musique à fond, vous connaissez le truc. Et là, d'un coup, il y a une voiture qui s'arrête et qui leur tire une rafale de plusieurs dizaines de balles. Et là, malheureusement, Tupac est dans un état, il est au bord de disparaître, quoi. Et il est mis en coma, quasiment dans un coma semi-conscient pendant une semaine derrière. Et il succombe une semaine après à ses blessures. Et malheureusement, paix à son âme, il disparaît. Franchement, c'est une très très grosse perte pour la musique. cette disparition pour en faire une émission. Bon, bref, on sait pas qui a tué, c'était une guerre de gang, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Certains disent que c'est voilà, sur Horde 2, machin. Enfin, allez voir, il y a un reportage sur P. Diddy en ce moment sur Netflix, produit par 50 Cent. Vous allez avoir quelques réponses à ça. Il y a même une légende qui dit que Tupac n'est pas mort, en fait, et qu'il a été réfugié à Cuba juste après. Enfin, c'est une légende. Il y a les mecs à qui on a dit qu'ils n'étaient pas morts, bah, alors qu'ils étaient bon, peut-être morts, on ne sait pas. Bah, il y a Michael Jackson et Elvis Presley. Donc ça vous place juste le personnage, en fait, par rapport à ces grandes légendes de la musique. Et là, on est parti. Donc bah, voilà, on pourra en reparler encore pendant longtemps, malheureusement, de cette disparition tragique. Mais moi, j'aimerais finir l'émission quand même sur quelques morceaux et faire place à l'artiste. Et il y a deux morceaux que je vais vous passer. C'est, le premier, c'est deux, ouais, allez, Change. Change, en fait, c'est un morceau qui devait à la base sortir sur l'album. Qui devait sortir sur l'album Strictly for My Niggas. Et c'est un très très beau morceau, et il est sorti juste après la disparition de Tupac, ce morceau Change, parce que bah, à l'époque il collait pas, en fait, avec la coloration de l'album Strictly for My Niggas, qui était un album très dur, hein, très rue, très street. Et là je vous passe ce morceau Changes de Tupac, qui est un très très beau morceau, avec un narratif social très très fort. Il dit que rien n'a changé, en fait, on a beau avancer, mais les Afro-Américains subissent toujours les mêmes problèmes, hein. Et puis voilà, c'est toujours cette mélodie, ce flow, ce côté New Jack, très R&B de Tupac dans ses refrains, hein, c'est très très lourd. Régalez-vous, on est sur Radio Galère, yo yo yo.
Come on. I see no changes, wake up in the morning and I ask myself, it's like worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black, my stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro, pull a trigger, kill him, he's a hero. Get a to the kids who the hell cares, one less hungry mouth on the welfare. Ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how I was supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is.
No changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racist. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white, and smoke tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret or conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a G today,
but you made it in a sleazy way. Selling it back to the kids.
I gotta get paid.
Well, hey, well, that's the way it is. Come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is.
That's just the way it is, Tupac. Changes, Tupac, ce morceau qui devait sortir sur Strictly for My Niggas, mais qui collait pas à la DA de l'album de l'époque, qui est sorti plus tard. C'est un morceau vraiment qui dit tout, en fait. Si vous voulez recommander Tupac à un ami, faites-lui écouter Changes. Il dit tout. Ce côté social, cette dénonciation du sort des opprimés, afro-américains ou pas. Nous, moi, dans les années 90, quand on a grandi sur cette musique-là, on s'identifiait à Tupac dans les quartiers. Parce que nous, en étant jeunes originaires d'Algérie, du Sénégal, de Mali, etc., on connaissait cette oppression-là. On comprenait le combat que vivaient les Afro-Américains dans les ghettos de New York, de San Francisco, de Los Angeles. Et ben nous, c'est ce qu'on vivait tous les jours dans les quartiers. On parlait pas anglais à l'époque, mais nous, cette musique, elle nous parlait parce qu'elle a de l'émotion, cette musique. Elle a la sensibilité. Et franchement, ben, il nous touche droit au cœur, Tupac, avec son œuvre. Je vous invite à écouter Tupac, à réécouter Tupac, c'est vraiment très très fort. Un deuxième morceau qui est malheureusement pas sorti à l'époque, c'est Do For Love. J'ai envie de vous le mettre parce que moi, franchement, je l'adore. C'est un très très beau morceau. C'est un morceau très groovy. Si vous êtes avec votre petite copine, écoutez-le. Franchement, c'est un très très beau morceau. Il devait sortir à la base sur l'album All Eyes On Me en 95 de Death Row. Mais à l'époque, Suge Knight, il a dit en fait, ce morceau-là, il est trop R&B. Ça colle pas avec le côté voyou qu'on veut te donner. Donc en fait, moi, je trouve que c'est un des plus très beaux morceaux de Tupac. Je vous le passe tout de suite. Do For Love, Tupac. C'est parti. Radio Galère, émission avec Musica. Régalez-vous. Comme d'habitude, c'est... Voilà, on est là pour partager avec vous. On n'est pas dans le mainstream, on est sur Radio Galère. Nous, des gens comme Tupac, c'est des gens qui partagent nos valeurs et on est très content de les mettre en avant. Aujourd'hui, on est parti. Do For Love, régalez-vous. C'est un très beau morceau. Très, très beau. Très, très beau morceau.
So many questions. When this began, we was the perfect match. Perhaps we had some problems, but we working at it. And now the arguments are getting loud. I wanna stay, but I can't help from walking out. Let's throw it away. Just take my hand and understand. If you could see, I never planned to be a man. It just wasn't me. But now I'm searching for commitment and other arms. I wanna shelter you from harm. Don't be alarmed. Your attitude was the cause. You got me stressing. Soon as I open up the door with your jealous questions, like where can I be? You're killing me with your jealousy. Now my ambitions to be free, I can't breathe. Cause soon as I leave, it's like a trap. I hear you calling me to come back. I'm a sucker for love.
Radio Galère, émission Musica avec ce morceau Do For Love, très très beau morceau de Tupac Shakur qui est sorti à titre posthume parce qu'en fait il devait être prévu dans l'album All Eyes On Me. On arrive au terme de cette émission avant de repasser la parole à nos amis de Comaguerre qui nous attendent. Allez, on clôture l'émission, on se retrouve mardi prochain le 3 mars pour un nouveau thème. Tupac, ça a été un régal d'être en sa compagnie pendant cette pause déjeuner. Émission Radio Galère Musica avec le MIDOU et on se quitte avec un dernier morceau de Tupac pour lui rendre hommage. C'est un morceau qui est sorti en fait juste après sa mort. Ce morceau-là s'appelle To Live and Die in LA. Quand on connaît sa légende, on comprend la force de ce morceau. Le clip est incroyable. Et moi, ce que je voulais juste vous dire, c'est un album qui est sorti à titre posthume, Machiavelli, juste après sa mort. Il a changé de nom, en fait. À la fin, il voulait plus s'appeler Tupac Shakur. Il voulait qu'on l'appelle Machiavelli, parce qu'il avait ce côté un peu coup monté contre lui, etc. Et ce côté stratège. Et cet album, Machiavelli, le Don Illuminati, c'est un album aussi incroyable qui est sorti à titre posthume, qu'il a enregistré juste avant sa mort. Et dont là, pour lui rendre hommage avant de quitter et de finir cette émission, je vous passe un dernier morceau. Nous, on se retrouve le mardi 3 mars, mardi prochain pour une nouvelle émission. On se quitte. To Live and Die in LA. Tupac est malheureusement disparu, mais sa légende et sa musique, son art continuent à vivre. Je vous le dis, il y a dans l'histoire de la musique, il y a Elvis Presley, Michael Jackson et Tupac. To Live and Die in LA. C'est parti sur Radio Galère avant de rendre l'antenne à Comaguerre.
West to live in Don LA, where everybody try to fatten their pocket. So many hustle for the cash, so it's hard to knock it. Everybody got their own thing, currency chasing. Worldwide through the hard times, worrying faces. Shed tears as we bury brothers close to heart. What was a friend, now a ghost in the dark. Hard part about it, brother got smoked by a fiend. Trying to floss on him, blind to a broken man's dreams. A hard lesson, court cases keep him guessing. Plea bargain ain't an option now, so I'm stressing. Cost me more to be free than a life in the bin. Making money off of cuss words, writing again. Learn how to think ahead, so I fight with my pen. Late night, down sunset, like in the sin. What's the worst they can do to a player? Got me lost in hell to live and die in LA on bail. My people say, live and die in LA. Angels in constant danger. South Central LA, can't get no stranger. Full of drama like a soap opera. On the curb, watching the ghetto bird helicopters. I observe so many homies getting three strikes, tossed to jail. Sweat a pin right across from hell. I can't cry, cause it's home now. I'm just a player on his own now. Living life thug style, so I can't smile. Writing to my loved ones, sending them pictures. Thinking Cali just sun and switches. Better learn about the dress code, B's and C's. All the mother suckers copycats, these is G's. I love Cali like I love women, cause every brother in LA got a little bit of thug in them. We might fight amongst each other, but I promise you this, we'll tear the roof